Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Eh ben, je suis bien content. Aujourd'hui, je reçois un écrivain que j'admire depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais rencontré. Le maître de la micro-nouvelle, David Thomas, sera mon invité. On le rejoint tout de suite. Mais d'abord, je vous annonce la suite au programme. La bibliothèque de Charles-Élie Couture, la librairie de Vaucresson avec Thibaut Raden et la chronique de Victor Dolande. La littérature jeunesse, important ça. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Allez, je vous dis tout, j'adore l'écrivain que je reçois aujourd'hui. Ça ne se dit pas normalement avant une interview, ça biaise un peu. Mais tant pis, je fais une exception pour vous dire, chez moi j'ai des exemplaires, on l'a en poche, de deux de ses livres et je les donne aux amis qui passent. Ils repartent avec la patience des buffles sous la pluie ou le poids du monde est amour. Comme les grands-parents, vous savez, qui refilent des bons becs, moi je donne l'un ou l'autre de ces recueils de micro-fiction. Et c'est un peu la même chose, ces livres-là sont des paquets de bonbons. J'en ai toujours dans la poche et j'en prends un ou deux textes de temps en temps. Bonjour David Thomas.
Bonjour.
Ravi donc de vous rencontrer pour la première fois. Vous publiez Seul, entouré de chiens qui mordent aux éditions de l'Olivier, les éditions de Jean-Paul Dubois d'ailleurs. Le prix Goncourt qui à chacun de vos livres se fend d'un compliment en bandeau. Il a même préfacé La patience des buffles sous la pluie. On va écouter vos textes tout à l'heure. On voit à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas encore. Philippe Dussault nous en lira deux, mais vous êtes un écrivain d'un genre très particulier. Alors, vous avez aussi écrit des romans, mais vous excellez dans la micro-fiction. Qu'est-ce que c'est la micro-fiction ?
Ah, c'est.
Est-ce que vous appelez ça de la micro-fiction ?
Moi, j'appelle pas ça la micro-fiction. Parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Et la micro-fiction, c'est un terme qui a été inventé par Régis Defray, qui est une appellation absolument géniale. Parce qu'avant ça, on ne parlait pas de micro-fiction. On parlait d'instantané ou de micro-nouvelle ou. Mais lui, il a fait ce premier livre il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, puis il en a fait un deuxième volume, avec cette formule tout aussi géniale, une vie entière dans un dé à coudre. Et ça, c'était le projet de Régis Defray. Mais bon, moi, je fais du texte court. Moi, j'appelle ça ou de la micro-nouvelle ou de l'instantané. Instantané, j'aime bien.
Ah oui, c'est bien.
Parce que moi, j'estime que ce que je fais, c'est de la photo. Et il y a un côté très photographique dans ce que je fais. Donc, je préfère appeler ça l'instantané. Mais on peut appeler ça comme on veut, il n'y a pas de... Bon.
Alors, je suis très fier de moi parce que quand je parle de vous, je dis c'est un peu comme des instantanés, tu vois. C'est un peu comme une photo.
Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai une passion pour la photo. J'aime les photographes qui me racontent une petite histoire. Il y a eu un courant photographique qu'on a appelé la photo humaniste qui est apparue dans les années 30, enfin 30-60, vous voyez, c'est les un peu Renis, Doisneau, Bouba, enfin tout ça. C'est en fait des photographes qui prenaient des sujets et qui les mettaient les sujets dans leur environnement. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Je raconte c'est des photos qui racontent un peu une histoire où, avec lesquelles on peut se raconter une histoire.
J'ai pas dit, mais c'est une demi-page ou une page ou deux, trois, quatre, maximum cinq pages.
Oui, allez, oui. Ça peut même être trois lignes parfois. Hein,
mais qui racontent beaucoup.
Pourquoi je parle de photos ? Parce que moi, mon projet, il est de photographier une émotion, un sentiment. Et pour ça, j'ai besoin de faire une mise en place. Quand vous voyez une photographie, par exemple, bon, vous avez l'ensemble de l'image et vous avez le personnage, vous avez le mouvement ou l'action du personnage, mais vous avez une vue d'ensemble immédiate. Avec un texte, je ne peux pas faire une vue d'ensemble immédiate. Je suis donc obligé de faire une espèce de mise en place. Qui, quand, ou quoi, pourquoi, comment, vous voyez ? Et pour arriver, qui va m'amener à ce côté photographique en fin de texte, je peux arriver une fois que tout est mis en place, attraper ce que je veux attraper, c'est-à-dire saisir ce micro-moment, ce micro-instant que je veux attraper. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, souvent, pas toujours, mais on dit de moi que je suis un écrivain à chute.
Mais, souvent, pas toujours.
Oui. Pas toujours. Mais c'est, en fait, c'est à cause de ce procédé qu'il y a ce côté chute. Chute au sens où une chute, c'est pas forcément quelque chose qui fait switcher, où il n'y a pas un rebondissement. Mais moi, j'arrive à ça parce que ce que je veux raconter, Ce que je veux dire, ce que je veux exprimer, c'est juste ce petit instantané, un regard, un silence, un geste, un moment intime, voilà. Et c'est pour ça que je dis que je fais de la photo. Moi. Effectivement, c'est très photographique ce que je fais.
Y compris en comptant sur le lecteur, en lui faisant confiance. Il y a une légende que j'adore. Je ne sais pas si elle est tout à fait vraie, mais c'est Hemingway qui parie avec ses copains qu'il va faire l'histoire la plus courte du monde. Et il écrit juste, vous connaissez cette histoire, il écrit juste « À vendre, chaussons pour bébé, jamais servi ».
Oui.
Et à partir de là, on se crée toute une histoire. Mais c'est le lecteur, en fait, qui fait l'histoire.
Évidemment. Cette fameuse citation qu'on attribue à Hemingway, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est lui ou pas. Mais là, il y a quoi ? C'est ça la force de ce truc. C'est l'évocation, le pouvoir d'évocation. Et c'est ça qui est formidable aussi avec ce format. C'est qu'il faut, être concentré, très centré sur ce pouvoir d'évocation. Il faut se dire que le lecteur, en quelques lignes, il doit pouvoir avoir tout un monde. Et c'est ça qui m'amuse, moi. Ça, j'avoue que j'aime bien avoir aller dans cette direction-là.
Tout un monde et avec tous les sujets de ce monde-là, parce qu'en général, dans vos livres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. C'est d'ailleurs pas tout à fait dans l'ordre, ou peut-être qu'il y en a un, vous allez me dire, mais ça va d'une relation père-fils à l'ennui, en passant par une histoire d'amour, une rupture, la solitude. À chaque fois, en fait, ça ferait aussi un bon roman, finalement. Comment est-ce que vous vous dites « Bon, bah, cette idée-là que j'ai eue en flânant, je ne sais pas comment vous les avez, ça va me faire une micro-fiction ou un instantané. Ou alors, ben non, ce serait plutôt, il faut la garder pour un roman. »
Oui, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si ça aurait fait un bon roman. Moi, je tire sur des fils. Voilà, j'ai une idée, j'entends un truc, on me raconte une histoire. Je me dis, ah tiens, c'est marrant, c'est étonnant. Je tire, je vois, ça cède, c'est pas bon, poubelle. Hein, et j'arrive jusqu'au bout et ça y est, j'ai mon histoire.
Mais par exemple, Hortensia, vos romans, comment vous avez décidé d'en faire un roman plutôt que d'en faire un texte court et mettre toute cette vie-là, tout ce roman-là dans un dé à coudre ?
Non, mais ça, c'est parce que j'ai fait des romans parce que les éditeurs me disaient que c'était mieux de faire des romans que des...
Ah, c'était malgré vous ? Oui, à votre corps défendant ?
Non, mais un petit peu, un petit peu. Le premier roman, Un silence de clairière, bon, je l'ai fait parce que je débutais, j'arrivais, quoi. Enfin, je me disais, mais non, mais c'est pas avec des micro-nouvelles que tu vas faire ton trou, donc il faut que tu fasses un roman. Bon, j'ai fait un roman qui a eu deux prix.
Prix Orange, d'ailleurs.
Prix Orange, c'est prestigieux. Louis Barthou et l'Académie française. Mais bon, ça a été un flop lamentable. Alors, je suis revenu aux micro-nouvelles. Puis après, j'ai changé d'éditeur. Je suis arrivé avec un recueil de micro-nouvelles. Mais bon, mon éditeur chez Stock m'a dit « Ouais, mais bon, faut faire des romans. Faut courir 100 mètres, quoi. » C'est un peu ce qu'il me disait. Parce que le javelot, par exemple, c'est pas sexy, le javelot. Faut faire du 100 mètres, mon vieux. Alors bon, alors, moi, j'ai fait un roman qui a été encore plus un flop. Et du coup, je suis revenu à mes micro-nouvelles en me disant « Bon, ben là, j'ai ma petite boutique. Voilà, c'est vrai que j'ai pas une grande boutique. Hein. Pour me trouver, on se perd un peu. Parfois, on passe devant sans l'avoir vu. Mais c'est chez moi, vous voyez. Ouais. Là, j'ai avec ces micro-nouvelles, oui, je suis chez moi. Quoi. C'est un truc...
Et ça forme une sorte de roman, finalement, d'ailleurs.
Oui, mais d'ailleurs, il y en a un qui a été un peu composé comme un roman. Le poids du monde est amour. Il y a un début, un milieu, une fin, parce que c'est le parcours de l'amour.
Alors c'est ça, mais c'est là, incroyable. J'en dis un mot, pardon, mais c'est incroyable ce livre. C'est donc un recueil de micro-nouvelles. Mais effectivement, il y a d'abord... Alors, il y a tous les types de personnages, hétéros, gays, du point de vue d'une femme, d'un homme, etc. Et puis, ça commence effectivement par tous les types de rencontres. Ensuite, il y a toutes les éventualités de couple qui durent longtemps, qui ne durent pas, etc. Tous ceux qui restent tout seuls aussi. Et puis à la fin, il y a toutes les idées de rupture ou d'histoires longues de couple.
Mais en fait, ce livre, il est composé comme une histoire d'amour. C'est-à-dire une histoire d'amour, qu'est-ce que c'est le parcours de l'amour ? C'est on est d'abord tout seul, on fait une rencontre, il y a le début d'histoire qui est merveilleux, il y a le quotidien qui s'installe, ensuite il y a éventuellement parfois des enfants... ou pas, mais bon, voilà, et puis on commence à soit se tromper, à soit s'engueuler, ou soit s'emmerder, et puis on se sépare et on se retrouve seul. C'est comme une boucle. Donc là, ce livre est composé de cette façon-là, avec des textes qui parlent du célibat, de la rencontre, mais chacun, à chaque fois, avec des personnages, il y a 100 textes, il y a 100 personnages. C'est comme un roman, mais en fait, c'est avec une succession de petites scénettes.
Fin de la première scénette, justement, et on se retrouve dans un instant pour la deuxième. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue avec David Thomas, aujourd'hui auteur de Seul, entouré de chiens qui mordent, un recueil de micro-nouvelles absolument génial. On parlait du poids du monde est amour tout à l'heure, un précédent recueil, David Thomas. Comment vous choisissez les titres ? Seul, entouré de chiens qui mordent, par exemple, c'est l'une des micro-nouvelles qui est en fait aussi la plus sombre.
Une des plus sombres. Il y a peut-être encore un peu plus sombre, non ?
C'est l'histoire d'un type qui est tellement odieux, un sale con qu'il finit seul, entouré de chiens qui mordent et d'autres joyeusetés. Pourquoi vous choisissez celui-là ? Ça sonne, hein, mais
parce que c'est un titre qui claque. Je vais être franc avec vous, j'avais un autre titre, et à l'Olivier, ils ont réfléchi et m'ont dit... peut-être que celui-là sera mieux, il claque plus. Et il est noir, mais il claque.
Voilà. Il n'est pas que noir, hein. Il est aussi très drôle. Ça va souvent avec, d'ailleurs.
Ah bah moi, mes livres, ils ne sont pas si noirs que ça.
Ah non, ils sont très très drôles.
Ils peuvent être noirs, hein, certains textes, mais il y en a d'autres. J'alterne, quoi. J'essaye d'alterner entre l'éclat de rire et, je ne vais pas dire la tristesse, mais émotionnel. Voilà.
Mélancolique.
Oui.
La plupart du temps, ce sont quand même des vies extrêmement banales, vos personnages. Mais effectivement, on y trouve toujours un intérêt. Vous n'allez jamais parler d'un super-héros,
non,
d'un type, d'un astronaute, ou j'en sais rien. Quoi.
Non.
C'est toujours le type lambda, qui a une vie lambda, mais vous lui donnez du relief.
Bah, je ne sais pas si je lui donne du relief, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir au-delà de ce que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on cache. Hein, c'est pas... L'image sociale ne m'a jamais beaucoup intéressé. Quand à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai toujours envie d'aller voir au-delà de ce qui me montre de lui-même. Et avec mes personnages, j'en fais autant. Je vais aller voir ce qu'ils se disent à eux-mêmes. C'est pour ça que j'étais toujours à la première personne. J'ai écrit 6 recueils de micro-nouvelles, et avec à peu près entre 80 et 100 textes chacun. Jamais une fois j'ai écrit à la troisième personne. C'est toujours je. Parce que je veux raccourcir au maximum la distance qu'il y a entre le personnage et moi, et je veux être au plus intime du personnage. Je veux l'entendre me dire ce qu'il se dit qu'à lui.
Y compris dans son pathétique. Il y a un texte qui s'appelle L'hypnose, qui est incroyable, qui est l'histoire d'un type qui regarde une fille sur Internet, sur YouTube, en train de couper un ananas.
Oui, c'est...
Bon, bah, il n'a rien à faire, il s'ennuie, il regarde ça. Bon, après tout, il apprend quelque chose. Mais, dans le texte, vous...
Le
montrer que c'est vraiment pathétique. Quoi.
Oui, c'est pathétique, c'est ridicule, mais mes personnages sont souvent... ils sont rarement glorieux, hein. Ben évidemment, parce que quand on est face à soi-même, on est rarement glorieux. Là, on est dans la réalité de ce qu'on est. Et donc, parfois c'est beau, parfois c'est des beaux sentiments, parfois c'est des... Et parfois ça l'est un peu moins, mais c'est la réalité humaine. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Je n'ai pas envie d'aller me raconter des histoires sur le... Enfin, je veux aller au plus intime, au plus réel, si vous voulez. Je veux aller au plus réel.
Il y a un texte dans lequel j'ai l'impression que vous donnez votre méthode. C'est l'histoire d'un type qui écoute une conversation à la terrasse d'un café, de la table d'à côté. C'est un couple, ou enfin en tout cas une fille et un garçon qui discutent d'un sujet un peu polémique. Ils sont vraiment pas d'accord.
Ouais.
Et ça monte et ça monte et ça monte. Et il y a le narrateur qui est en train d'écouter, qui est passionné par ça, mais qui a surtout pas du tout envie d'être pris à partie.
Alors là, ça, je sais pas s'il est passionné, mais en fait, il le dit, il peut même plus se mettre à rêvasser parce qu'il parle trop fort. Donc leur conversation couvre ses rêveries. Et ce couple, en fait, le narrateur constate qu'ils sont dans une discussion pour savoir si c'était quoi exactement. On doit distinguer l'œuvre de l'artiste. Un débat, quoi. Quelque chose de très français, le débat. Et mais lui, il n'a pas envie de donner son opinion, il n'a pas envie de débattre. Et il s'aperçoit d'ailleurs qu'au fur et à mesure que la discussion s'attarde, ils s'éloignent, les deux, là. Et il n'y a vraiment plus rien pour les rapprocher. C'est comme, ils sont chacun sur leur rive à hurler ce qu'ils pensent, et plus rien ne les rapproche. Et c'est ce qu'il, du coup, il fout le camp.
Et alors, vous posez aussi un problème très grave dans ce recueil, c'est comment clore une conversation téléphonique. Il y a un des personnages qui est un peu phobique du téléphone. Dès qu'on l'appelle, c'est un problème, parce qu'il ne sait pas du tout comment clore cette conversation. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, en fait. Il faut faire un « Bon, allez !» Ou être comme ça, quoi.
Il sait pas, c'est toujours trop long. C'est comme... ça doit être un type qui doit lire de la micro-nouvelle, il faut faire court avec lui, quoi.
Mais c'est drôle parce que je vous connaissais pas du tout, jusqu'à aujourd'hui, et en revanche, j'avais l'impression de vous connaître en lisant vos micro-nouvelles. Alors, dans certaines, pas toutes, je vous imaginais bien dans cette situation-là. Et par exemple, la conversation téléphonique que vous aimez, dont vous n'êtes pas trop fan, ça, je voulais bien y croire.
Non, effectivement, mais j'aime pas les conversations qui sont trop longues. Je suis pas un type qui peut passer des heures au téléphone. Non. C'est pas mon truc, mais bon, je veux pas de jugement pour les gens. Je peux parfaitement comprendre.
Ah, mais il y a jamais de jugement, de toute façon, dans vos livres.
Ah non, mais moi, je ne juge pas les personnages, même quand ils sont complètement stupides, je les aime bien, je les aime tous, voilà. Même quand ils sont idiots, même quand ils sont très cons, je leur parle. J'ai de l'indulgence. J'ai de l'indulgence pour eux.
Et y a, en parlant de conversation, il y a une que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un type qui est marié et tout, mais qui avec une femme très bavarde. Et un jour, il tombe amoureux d'une fille en Lituanie, je crois. Et il ne parle pas du tout sa langue, et elle non plus.
Ouais.
Et en fait, c'est sa plus belle histoire d'amour. Et pendant tout le reste de leur histoire d'amour et de leur vie, ils ne se comprendront jamais par la langue, mais par les gestes et par les corps et par les
intentions. Oui, ils n'ont que l'essentiel. Ils parlent un mauvais anglais tous les deux, donc suffisant pour dire j'ai faim ou j'ai envie de me coucher ou allons-nous promener ou j'ai envie de toi. Et ça suffit largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, quoi. Voilà. On va au nerf des choses.
C'est long d'écrire court. Je vous pose la question parce que j'aime bien cette formule, je trouve qu'elle sonne. C'est long d'écrire court.
C'est une belle formule, c'est vrai, mais c'est pas long d'écrire court, non, c'est pas vrai. Il faut juste avoir l'idée, c'est comme des fruits qui tombent des arbres. Il faut que le fruit soit mûr et qu'il tombe. C'est comme tirer, voilà ce que je vous disais, on tire sur le fil, ça vient ou ça vient pas. Il faut savoir qu'il y a du déchet. Mais bon, il y a du déchet, j'imagine, pour tous les écrivains, il faut... Écrire, c'est enlever. Écrire, c'est jeter.
Vous écrivez tout le temps, mais vous transmettez aussi, puisque vous animez des ateliers d'écriture aussi à l'école. Les mots, c'est le nom de l'école. Qu'est-ce que vous y faites ?
J'ai des gens qui viennent participer à ces ateliers et j'essaye de leur transmettre mon expérience de l'écriture. Voilà. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. On peut enseigner la littérature, l'histoire de la littérature. On ne peut pas enseigner l'écriture. On peut transmettre. On peut... s'adapter. Moi, j'essaye de m'adapter à chacun des participants. Là, parfois, il est bon là et moins bon là. Et alors, j'essaie de le tirer plutôt par là, lui disant, j'essaie de repérer où ils sont et de les aider à corriger, à poncer là où ils sont moins bons et à aller plus loin là où ils sont bons.
C'est encore ouvert là avec la crise sanitaire.
Ah oui, bah, bien sûr. Bah, vous pensez avec les... voilà, on fait ça en visioconférence. Et oui, non, ça.
J'ai regardé, tout est complet pour vous.
Bah oui, là je viens d'en terminer un, j'en fais 3 ou 4 ou 5 par an. Ouais, j'en fais régulièrement, ça fait 5 ans que je suis chez eux, 4 ans que je suis chez eux.
Et vous apprenez en apprenant ? C'est encore une belle formule.
Oui, ça m'oblige à nommer. Bon, je ne suis pas le genre à poser beaucoup de questions, moi. Hein. Donc je ne suis pas du genre non plus à décortiquer, décomposer le travail d'écriture. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là, mais... Du coup, ça m'a aidé effectivement à prendre un peu de distance par rapport à ce que je fais et à nommer ce que je fais, ce qui n'est pas plus mal.
On prend un tout petit peu de distance, David Thomas, mais vous restez avec nous dans un instant. C'est le livre culte et donc bah, aujourd'hui, j'ai choisi deux textes de vous. A tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
La Voix est livre continue toujours avec David Thomas qui publie aux éditions de l'Olivier, Seul, entouré de chiens qui mordent, encore un recueil génial de micro-nouvelles. Il y a deux autres recueils que j'aime beaucoup, Le poids du monde est amour et La patience des buffles sous la pluie. Les deux sont au livre de poche et je vous propose justement d'écouter un texte de chacun de ces recueils, lu, comme d'habitude, par le comédien Philippe Dussault.
La fin du début. Nous nous sommes rencontrés l'été dernier. Je crois que l'on peut affirmer, sans en rajouter, que nous nous sommes jetés l'un sur l'autre. Je n'avais jamais connu cela, je crois que lui non plus. Une osmose parfaite, deux corps, deux êtres faits pour se rencontrer, pour se compléter, pour ne faire qu'un. Aucun homme n'a provoqué chez moi autant de désir. Il m'a ouvert des portes, m'a fait passer sur d'autres rives. C'est comme si... J'avais découvert le plaisir que je croyais pourtant avoir bien exploré. D'après ses dires, c'est réciproque. Je le crois. Depuis cette nuit à Milan, nous avons fait l'amour tous les jours. Parfois deux fois. Parfois trois. Cela fait 261 jours que nous sommes ensemble et déjà cet homme m'a fait jouir 322 fois. Hier, pour la première fois en 261 jours, nous nous sommes endormis sans avoir fait l'amour. Ça y est, nous sommes un couple.
...14h-15h sur Europe 1... La voix est libre.
La splendeur de l'ennui. Je suis quelqu'un qui s'ennuie souvent et je cultive cet ennui comme on entretient un corps d'athlète. J'essaie tous les jours de m'ennuyer un peu. Je m'octroie quotidiennement cette gymnastique de l'immobilité. Je veille à ce que mon ennui ne soit entravé par aucun désir et que rien ni personne ne le perturbe. Je peux rester chez moi plusieurs jours sans rien faire et parfois, j'atteins cette splendeur extatique que doivent ressentir certains moines concentrés dans leur prière. Je n'ai jamais autant la sensation de vivre que lorsque je m'ennuie. Mon inaction me positionne alors pleinement dans le monde. Je prends conscience de ma place ici-bas, une micro-place, comme celle de n'importe qui, mais une place tout de même. Parfois, je rêve de pulvériser pour des siècles le record de l'ennui, ne rien faire, ne rien espérer, ne rien projeter dans l'avenir et attendre la mort, comme on attend l'autobus, en pensant à autre chose. Je m'imagine très bien vivre complètement nu au fond d'une vallée ou, le plus anonymement possible, dans une maison de ville ou au bord d'une plage chilienne ou sur une dune du Kalahari. Peu importe. Et ne m'exprimer qu'en dilatant mes narines, en clignant de l'œil ou en lâchant quelques petits pets secs et explicite. Être là, un point, c'est tout, sans avoir à justifier mon existence par des paroles ou des actes.
C'était donc un texte du Poids du monde est amour de David Thomas et de La patience des buffles sous la pluie du même David Thomas qui est toujours avec nous et qui publie, je le rappelle, Seul entouré de chiens qui mordent, recueil de micro-nouvelles. Oh, il y a bien, je sais pas, 70, 80 nouvelles.
Il y en a 100.
100, ouais, ah, 100,
plus,
100 piles,
103,
d'accord.
Je sais plus, enfin voilà, maintenant, oui, c'est ça.
C'est... C'est la séquence du livre culte. C'est quoi votre livre culte à vous, si vous en avez un, c'est pas obligé.
Ah ben moi, c'est La crucifixion en rose de Miller. On a trois livres en un.
C'est quoi?
Ben c'est Sexus, Plexus, Nexus. C'est l'odyssée millérien en 1600 pages.
Qui est très long et c'est l'histoire d'un type qui coupe tout et qui
ben, c'est
qui
l'histoire
part,
de
qui
Miller qui veut devenir écrivain et qui quitte effectivement sa vie un petit peu... qui n'était pas sa vie, dont il s'aperçoit que ce n'était pas sa vie, qui tombe fou amoureux d'une femme qui lui fait vivre une vie impossible. Et puis, voilà, ça finit par son départ de l'Amérique. Enfin, il quitte les États-Unis pour la France. Et puis après, voilà. C'est très paradoxal que je vous dise ça, puisque moi,
c'est
qui fais des
vous dire.
Très courts, je choisis un truc. Mais parce que Miller a été la plus grande gifle que j'ai jamais reçu de ma vie. Enfin, il y en a eu d'autres, c'est pas vrai. Mais c'est des gifles très douces. Mais Miller, en l'occurrence, c'est d'une puissance extraordinaire. C'est un espèce de torrent d'une force incroyable.
Alors, je me baladais dans les couloirs d'Europe 1 la semaine dernière et je croise Frédéric Taddeï, c'est très chic, et je lui dis que je vous reçois bientôt. Et il me dit « Ah, mais David Thomas, ça me fait penser à Jacques Sternberg, tu connais pas ?» Et j'ai dit que non, et je l'ai découvert. Et effectivement, c'est aussi un auteur, alors belge, qui écrit des micro-nouvelles. Et notamment, j'ai acheté, moi, le recueil « Histoire à dormir sans vous ».
Oui, très beau titre.
Il est cité, justement, dans ce recueil-là. On va en reparler tout à l'heure, peut-être. Mais vous nous présentez Jacques Sternberg.
Sternberg, c'était un écrivain de contes fantastiques, surtout. Il a fait un peu de science-fiction. Ce qui nous rassemble, c'est le format. Parce que lui, il avait... C'était très fantastique. Moi, je n'écris pas du tout du fantastique. Je suis vraiment ancré dans le réel, moi. Je suis très, très, très réaliste. Et Sternberg, c'est un écrivain très fantaisiste, quoi. Enfin, voilà, c'est ou fantastique ou science-fiction. Mais c'est un... Moi, Sternberg, il y avait un truc que j'aime bien qu'il avait dit, justement, au sujet de... On lui reprochait ça. On lui disait, oui, bon, voilà, vous écrivez vos petites histoires, vos petits contes. Et il disait, oui, mais vous savez, pour écrire un roman, il faut une idée. Et pour écrire un recueil de 250 contes, il faut 250 idées. Et c'est très juste.
J'ai un texte de lui que j'avais mis de côté, La courtoisie, ça s'appelle. Elle avait reçu une excellente éducation et le savoir-vivre lui était naturel. Quand, lasse de tout, elle se jeta dans le vide du haut du 7e étage, elle eut le tact de refermer la fenêtre derrière elle pour ne pas faire de courant d'air dans la pièce où son mari lisait le journal. C'est vrai qu'il y a tout quand même dans ce truc-là.
Oui, oui, c'est très drôle, mais c'est à la fois un peu... Sternberg, il c'est jamais réaliste. Alors que moi, je suis toujours réaliste. Oui. Oui. C'est la seule, vous voyez, la différence, elle est là, en fait. Mais c'est très drôle, Sternberg. C'est une fantaisie incroyable et c'est plein d'humour. Enfin, non, mais ça a été un très, très grand écrivain de textes courts. C'est évident. Hein.
En tout cas, il est dans votre bibliothèque.
Ah ben, il est dans ma bibliothèque, oui, ça, c'est sûr que...
Et on va voir s'il est peut-être dans la bibliothèque de Charles-Élie Couture. C'est dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Charles-Élie Couture, le chanteur et écrivain et peintre. Il publie New York Memories au Cherche Midi. Il y parle de ses souvenirs en Amérique et justement sa bibliothèque fourmille d'écrivains américains. Vous savez que moi aussi j'aime bien ça, mais pas que. Bonjour Charles-Élie Couture.
Salut, salut.
Merci de nous recevoir chez vous.
Volontiers.
On est à Paris, chez vous, mais je crois que vous avez une autre maison où vous avez aussi beaucoup de livres.
Oui, c'est ça. J'ai en fait une maison dans l'Est de la France où j'ai été confiné au moment du premier confinement. Le seul, le vrai, l'unique, le beau. Celui qui nous a permis de redécouvrir le printemps. Mais, et donc cette maison est en dehors du monde réel, si je puis dire, puisqu'elle est à l'écart d'un village. Mais ici,
vous habitiez là-bas avant?
Ça dépend ce qu'on appelle avant. Je suis originaire de Nancy, mais je n'ai jamais habité dans cette maison, si ce n'est au moment de ce confinement,
où
là, j'ai passé le plus de temps. Mais j'y venais régulièrement avec mes enfants, puisque, encore une fois, elle se trouve à l'écart de l'écart. C'est un endroit intime, on va dire.
Et là, on est dans un appartement, dans un quartier populaire, avec des anciens entrepôts, je crois.
C'est ça,
avec des immenses fenêtres, du coup.
Oui, c'est
très
ça.
Clair.
Oui,
et là, c'est un grand salon ouvert, qui a des livres partout, des guitares aussi. Mais ce côté livre, là où on est, on a l'impression un peu d'être dans une antre de pirates. Ça ne vous embête pas que je dise ça?
Non, pas du tout.
Il y en a partout, des trésors partout, quoi.
Un peu... un endroit de curiosité où les objets, c'est de l'histoire, on va dire. Les livres sont fondus ou confondus avec des objets, des petites sculptures ou des cailloux ou des petits bronzes ou des statuettes moulées qui chacun raconte quelque chose. Donc finalement... pour moi, la littérature, c'est aussi le fait de raconter des histoires et d'utiliser les mots pour emmener l'esprit ailleurs que là où il est.
Alors, il y a des livres partout.
Disons que cette bibliothèque, je l'ai construite. C'est moi qui l'ai fabriquée quand on est arrivé dans cet endroit-là. Elle est construite à partir d'éléments de récup, etc. Il faut dire que mon père était antiquaire décorateur. Et quand j'étais gamin, je passais des heures dans les ateliers à bricoler le bois. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis construit ce meuble qui a pour... afin de pouvoir donc accueillir à la fois des choses et des livres.
Vous avez vécu longtemps à New York, aux États-Unis.
Alors, je suis revenu depuis 2 ans, on va dire, de New York où j'ai habité, oui.
Mais ça explique pourquoi il y a autant d'écrivains américains. Je vois Paul Auster, Raymond Carver, Jim Harrison, Brotigan, John Fante. Histoire de la littérature américaine, même un gros volume,
c'est
un gros
ça.
Dictionnaire.
Ouais, donc,
vous en avez rencontré des écrivains américains quand vous étiez à New York?
Notamment Mark Safranco, par exemple.
Ah, oui.
On a
nous le présenter
ensemble. Mark Safranco, c'est un écrivain réaliste américain qui des époques, on va dire, la grande période, c'est les années fin 80, début 90, qui raconte des histoires du New York, comme on peut le vivre au quotidien, quoi, avec des vols de portefeuille et des filles qui vous trompent, je sais pas, avec
La vie, quoi.
La vraie vie, quoi. On est dans encore une fois, une relation, les yeux ouverts, lucide, voilà, c'est ça. J'adore la lucidité dans le voire extra lucide, quoi. C'est cette lumière qui vient de l'intérieur.
Entre les livres, j'ai pas dit, mais il y a plein de figurines et plein de jouets. Vous avez du Toy Story, vous avez des vieux jouets des années 40, je sais pas.
Comment ?
C'est quoi toute cette collection de jouets ?
C'est là où ça se passe.
Le marsupilami.
Oui, à côté d'une petite figure, là, une figure romaine, une sculpture, une cuillère romaine. J'ai un des premiers couverts qui ont été inventés gothiques, tu vois, qui est dans une corne de daguet, le chevreuil.
Ça date de quand, ça ?
Ça, une période gothique. Hein, tu vois.
Les fourchettes, ça ?
Oui, fourchette à deux dents qui servait juste à piquer la nourriture. Et là, c'était seulement pour couper la viande. Donc, effectivement, la lame est ronde. Voilà. À côté, c'est une petite statuette étrusque. Et à côté, c'est une autre statuette, mais que moi, j'ai faite en bronze, etc.
C'est vrai que c'est vous qui avez fait la musique de Toy Story ?
Moi, j'ai fait l'adaptation en français des chansons de Randy Newman. Et je les ai interprétés.
C'est d'ailleurs mon meilleur ami et tout ça.
Ouais, ah bah oui, ton ami c'est moi, je suis ton ami. Si tu as des soucis, j'ai les mêmes aussi. et ainsi de suite.
J'ai pas dit, mais les auditeurs doivent deviner, il y a des guitares partout.
J'en ai plein d'autres.
J'imagine. Mais là, on a une dobro. Vous nous expliquez ce que c'est qu'une dobro ? C'est très particulier.
Dobro, c'est une guitare mate avec un résonateur de national à l'intérieur, c'est-à-dire une espèce de cône en métal qui fait que le son est assez particulier, assez métallique. Sauf que celle-là, je l'ai ramenée de Louisiane où j'ai enregistré un disque. À Lafayette, plus précisément. Et puis après, je l'ai fait amplifier.
C'est très blues, en fait.
Yes, I'm sounding very bluesy, that's for sure.
Vous avez des dictionnaires aussi, une petite collection de dictionnaires. Vous en servez souvent ?
Je m'en suis servi. Aujourd'hui, on passe par Google.
Vous avez arrêté, vous aussi ?
Ben, écoute, le dictionnaire, c'était un rêve pour tout un chacun d'apparaître parmi les choses qui allaient rester au monde. Mais aujourd'hui, tout ça existe en virtuel. Donc, je m'en sers plus beaucoup, même si je me sers tous les jours de dictionnaire. J'utilise ceux qui sont en ligne parce que c'est plus pratique.
Il y a beaucoup de poésie aussi. Aragon, là, je vois, Pessoa.
Pessoa, oui. Le livre de l'intranquillité, par exemple, c'est un de mes livres préférés. Je veux dire, extrêmement stimulant.
Pourquoi ?
Parce que c'était un personnage un peu fade, qui avait l'air de rien et qui, en fait, était beaucoup plus actif et beaucoup plus fou que son apparence. Aujourd'hui, souvent, les personnages qui sont spectaculaires, c'est ceux qui ont une apparence exubérante, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est plus subtil. Enfin, il y a les gens qui ont du fond et de la forme. Et Pessoa, par exemple, pour moi, avec tous ces jeux de personnalité, d'attitude, impossible à cerner, qui était un roi de la manipulation, mais qui jouait lui-même avec ses différentes personnalités à la manière d'un Kafka, mais d'une autre manière. C'est quelqu'un qui m'a fasciné.
Bon, on n'a pas eu le temps d'aller vraiment au bout de votre bibliothèque, mais on est quand même obligé de fermer le livre, parce qu'on est pris par le temps. Merci Charles Élie Couture, merci pour la visite.
Merci à vous de m'avoir invité.
À bientôt.
Salut.
De retour dans les studios d'Europe 1 avec David Thomas qui publie « Seul entouré de chiens qui mordent ». David Thomas aux éditions de l'Olivier. Il y a justement une histoire intitulée « Bibliothèque » dans votre livre. Mmh. Et alors, est-ce que c'est la vôtre ?
Oui, c'est ma bibliothèque, oui. Enfin, en fait, pas tout à fait complète. Je m'en suis aperçu après. Je me suis dit que j'en ai oublié plein, mais bon.
Ah, parce que vous aviez l'intention de faire quelque chose de complet ?
Non, ben je peux pas parce que ce serait un peu long, mais non, ça pourrait être ma bibliothèque.
Vous dites quelque chose qui résume un peu l'esprit de cette séquence de visite de bibliothèque. Les bibliothèques sont comme les empreintes digitales, il n'y en a pas deux identiques au monde. C'est vrai cette histoire.
Oui,
ça, on est bien d'accord qu'une bibliothèque, ça dit quelque chose sur son
propriétaire. Ah oui, c'est extrêmement parlant sur qui on a une bibliothèque.
Vous, c'est rangé chez vous, c'est foutraque, c'est classé, c'est comment ?
C'est les deux, c'est-à-dire que l'essentiel est rangé, enfin les poutres, les piliers, c'est rangé. Hein, les écrivains que j'aime, Carver, tout est là, Jean, tout est là, Miller, tout est là, Bukowski, tout est là, Dubois, Gary, ça c'est rangé. Jules Renard, vous voyez. Bon. Après, le autour, hein, c'est plus bordélique, mais je fonctionne à une mémoire visuelle, je sais que c'est par là, vous voyez. Si je cherche un livre, je sais qu'il est par là, mais c'est un peu plus désordonné.
Restez avec nous, David Thomas. On part chez un libraire important aussi, dans un instant. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre. Il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction Vaucresson, librairie L'Écriture. Bonjour Thibault Raden.
Bonjour Nicolas.
Alors, trois coups de cœur aujourd'hui, oui. En 4 minutes 30. Bonjour. Je vous écoute.
Alors, le premier, c'est un manga. Ça s'appelle Blue Period. C'est de Tsubasa Yamaguchi et c'est chez Pika Edition. Et comme j'ai l'habitude de dire aux gens à qui j'en parle, j'avais jamais ressenti ça dans un manga. Alors, ce manga, comme Blue Period, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça fait tout de suite penser à Picasso. C'est le cas, c'est un manga sur la peinture. On suit un jeune adolescent qui est très très compétent dans ses études, mais qui est un petit peu qui est pris pour un voyou. Il s'y fait plein de choses que normalement il ne devrait pas faire. Et il ne sait pas ce qu'il doit faire de sa vie. Pourtant, il a des vœux à faire pour ses futures écoles, ses futures facs. Et un jour qu'il va chercher des cigarettes via une copine, on s'en fiche un petit peu, il tombe sur un tableau qui n'est pas terminé. Et sur ce tableau, il y a deux personnages. Il y en a un des personnages qui est vert. Et il ne comprend pas pourquoi. Mais il sait juste qu'il a été happé par la force de cette peinture. Et la fille qui est en train de le faire, qui est une étudiante, arrive et lui explique qu'en fait, pour faire la couleur de la peau, il faut plusieurs couleurs, dont du vert pour faire un peu de forme, un peu de profondeur et tout ça. Et en fait, à partir de là, il se rend compte que la peinture, c'est pas juste un truc sur un papier avec de l'eau ou quoi que ce soit. Et il s'y intéresse de plus en plus. Il se met à dessiner et il a une prof de dessin qui un jour lui demande en cours de faire un paysage, peu importe quoi, mais il le fait. Et en fait, il décide de dessiner Shibuya au matin. Et pour ça, il comprend qu'il faut utiliser plusieurs couleurs. Il en utilise. Et là, sa prof lui dit, alors que lui, il s'attendait à se faire réprimander parce que son dessin est entre guillemets moche, que même s'il n'a pas la technique, il a l'idée et l'intention. Et c'est ça qui compte, parce que c'est ce qui fait qu'on ressent quelque chose. Et à partir de là, le personnage va tellement se poser de questions qu'il va décider de continuer dans cette voie parce que c'est quelque chose qui le porte et quelque chose qu'il n'avait jamais vécu.
J'imagine que les dessins sont magnifiques.
Les dessins sont très beaux. Il y a vraiment quelque chose où il y a une certaine... il flotte. Il y a un dessin qui est très libre. C'est très plaisant. Il y a pas mal de passages où quand il dessine des paysages, voilà, en fait, il vole dans le paysage pour pouvoir vraiment tout dessiner. C'est vraiment très joli. Il a une professeure qui est... Enfin, moi, je veux la même si je ne fais plus d'études. Mais en tout cas, je veux la même. C'est génial. C'est vraiment très beau. Et ce que je disais à une cliente qui lit beaucoup de mangas à qui je l'ai conseillé, elle me dit c'est la première fois de ma vie que je ne me suis pas identifié à un personnage, mais que c'est devenu mon ami.
Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Et encore un japonais, mais c'est votre spécialité, Yoshino Genzaburo. Et vous, comment vivrez-vous ?
Voilà, exactement. Ça, c'est pour la petite anecdote, parce que c'est un peu aussi ce qui m'a fait commencer ce bouquin, c'est que c'est le prochain livre que Miyazaki est en train d'adapter en film d'animation. Oh. Et je me suis dit, il faut que je prenne de l'avance sur lui, il faut que je le lise. Je suis très, très bien tombé. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En cette période assez terrible qu'on peut vivre, c'est un des meilleurs livres que j'ai à conseiller. C'est l'histoire d'un gamin de 15 ans qui... qui en fait commence plutôt par se poser plein de questions sur la vie, sur les rapports avec les gens, avec sa famille ou ce qu'il veut faire dans sa vie. Et en fait, il n'a pas de réponse. Son père étant mort et sa mère très occupée par son travail, il n'a pas de réponse. Et en fait, son oncle va lui répondre dans un cahier où il va écrire à chaque fois, à chaque discussion qu'il a eue avec son neveu, et va lui écrire des réponses qu'il va lui faire lire plus tard. Et c'est magnifique, vraiment.
Vite, 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 votre gros coup de cœur, c'est un roman russe.
Oui, de Dimitri Lipskerov, Léonide doit mourir, c'est chez Agulo. C'est une claque monumentale, une claque, mais même plus qu'une des... Enfin, vous vous faites bastonner le visage par de la littérature, c'est extraordinaire. Vous suivez Léonide, la première fois que vous le rencontrez, c'est un fœtus qui sait tout. Il a la connaissance, il a le savoir et il est très conscient de sa propre condition. Il va naître et va devenir quelqu'un dans l'Union post-soviétique qui va un peu le façonner. Et à côté de ça, vous avez Angelina, qui est une ancienne tireuse d'élite de l'Union soviétique, qui, à 82 ans, se sent très vieille dans sa peau, mais pas dans son corps. Et effectivement, son corps, elle a des organes d'une fille de 20 ans. Et en fait, on va nous raconter leurs deux vies. Elles vont peut-être se croiser à un moment donné. C'est extraordinairement bien écrit. C'est magnifique. Enfin, c'est une énorme surprise. C'est un très, 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 très grand roman.
Et on salue les éditions Agulo, édition indépendante, magnifique. Léonide doit mourir de Dimitri Lipskerov, Blue Period de Tsubasa Yamaguchi et vous, comment vivrez-vous de Yoshino Genzaburo aux éditions Piquier. Et ce sera donc le prochain Miyazaki. Merci beaucoup Thibaut.
Merci Nicolas.
Europe 1.
Retour à Europe 1, toujours avec David Thomas pour son nouveau recueil de micro-fiction. Et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine donc, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Salut Victor.
Salut Nicolas.
Oula, mais vous êtes avec un magazine qui me rappelle ma jeunesse.
Eh oui. Le
magazine Phosphore, dites donc.
Bah oui, car la littérature jeunesse, c'est aussi, Nicolas, la presse jeunesse. Le magazine Phosphore, tout le monde le sait pas, c'est un bimensuel pour les 14-18 ans. Et celui qui est actuellement en kiosque est entièrement consacré à la question d'égalité filles-garçons. Ça tombe bien, demain, comme vous devez le savoir, c'est la journée internationale. Exactement, du droit des femmes. Des droits des femmes, d'ailleurs, faut-il dire. Cette question que vous retrouvez dans tous les domaines, les médias, l'éducation, le salaire, l'évolution de carrière, la justice, la culture, la politique. Il y a également un dossier central intitulé « Être féministe à 17 ans, ça veut dire quoi ?» Vous apprendrez plein de choses. L'équipe de Phosphore a rencontré notamment 9 adolescents engagés sur cette question. Entre prise de conscience et moyens d'action, ils racontent leur quotidien comme certaines jeunes adolescentes qui ont pris par exemple le parti de ne plus jamais accepter aucune remarque sexiste et de systématiquement rembarrer plus ou moins poliment les garçons quand ils ont une remarque sexiste.
Et ça avance, il y a des raisons d'espérer ?
Alors il y a des bonnes raisons d'espérer, et aussi dans le magazine vous trouverez quelques bonnes nouvelles antisexistes, il y a toute une rubrique là-dessus. Marion Joseph, rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore, vous en donne et vous en liste quelques-unes.
On a par exemple interviewé Ben Never, qui est un youtubeur qui s'exprime beaucoup sur ces questions de masculinité toxique et sur le fait que les garçons ne doivent pas forcément non plus répondre aux injonctions d'être viril, de pas pleurer, d'être musclé, etc. Il y a une nouvelle assez symbolique mais importante quand même qu'on a intitulée « Un petit pas pour la femme, un grand pas pour l'humanité » dans laquelle on découvre que la NASA s'est engagée à envoyer une femme sur la Lune, donc on ne sait pas encore... qui ce sera. Donc voilà, on raconte un petit peu cette histoire-là.
Dans cette rubrique, les journalistes de la rédaction reviennent aussi sur la parité parfaite qui sera mise en place à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Très intéressant. Et enfin, pour terminer votre lecture, de manière un peu plus tranquille, vous trouverez un jeu de cartes antisexistes où filles et garçons, c'est très rigolo, vous verrez, s'envoient des punchlines méga sexistes et il faut trouver à chaque fois, le plus rapidement possible, la répartie ou la plus drôle, ou la plus polie, ou la plus directe.
C'est très facile,
c'est,
ça.
C'est pas facile, mais vous verrez, c'est très intéressant. Et puis surtout, ça donne quelques bons conseils pour la vie de tous les jours.
Le magazine Phosphore, donc consacré aux questions d'égalité entre les filles et les garçons, qu'on peut retrouver dans tous les kiosques.
Exactement.
C'est chouette, ça, Phosphore. Merci, Victor.
Avec plaisir, Nicolas.
Et vous, David Thomas, c'est quoi le... Vous êtes toujours avec nous. C'est quoi le premier roman que vous avez lu en entier ou qui vous a marqué?
Alors voilà, vous voyez là, il y a deux questions. Parce que le premier livre que j'ai lu en entier, je n'en garde pas un souvenir, c'était le Général Dourakine, un truc comme ça, mais bon, Mes parents étaient désespérés parce que je lisais très peu. Moi, je me suis mis à lire très très tard, 16 ans. C'est extrêmement tard. Et mes parents étaient désespérés. Et ma mère m'avait fait lire le général d'Ourakine, mais j'ai un meilleur souvenir. Et elle se mettait à côté de moi. On lisait un peu à deux. J'ai un bien meilleur souvenir d'avoir ma mère à côté de moi à 10 ans, plutôt que le livre. Mais le premier livre de lecteur qui m'a vraiment marqué, c'est La promesse de l'aube. C'est un livre qui m'a été offert par mon frère aîné. Je partais en Espagne intercambio, vous savez, c'était jour linguistique. J'avais aucune envie d'y aller, j'étais complètement déprimé, j'écoutais Brel et Ferré toute la journée, j'étais vraiment dans le noir, quoi. Et mon frère, avant de prendre le train la veille, m'a acheté ce livre et m'a dit « Tu verras, c'est formidable ». Et j'étais dans une espèce de phalanstère, il y avait une piscine, j'étais très maigre et j'osais pas aller à la piscine le matin parce que tout le monde y allait le matin. Et j'y allais après le déjeuner, au moment où il faisait 45 degrés, enfin, j'étais tout seul à la piscine parce qu'ils faisaient tous la sieste à l'ombre. Mais moi, j'y allais avec mon... Et c'est là que j'ai lu Gary, tout seul, à l'ombre, côté de cette piscine. Et là, j'ai eu un premier choc de lecteur, comme j'en aurais un autre après, en voyant La Cerisaie de Tchekhov, montée par Peter Brook. Là, j'ai eu une espèce de révélation, quoi, vous voyez, à la fois de spectateur pour le Tchekhov et de lecteur avec Gary, qui se confirmera ensuite avec Philippe Djian, avec Henry Miller, Fante, Carver... Bukowski et les autres. Quoi.
Seul, entouré de chiens qui mordent, aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, David Thomas, d'être venu.
Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Merci à Boris Paczynski, bien entendu. L'homme aux doigts de fée, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.